Audiolib présente Le soldat désaccordé de Gilles Marchand, lu par Laurent Natrella. À Milo et Elliot. À Verdun, une division, dans l'espace d'une relève, laisse en moyenne 4000 hommes. La terre elle-même change de forme. Les collines sous les coups de rabot des obus perdent leur relief, leur contour. Le paysage prend cet aspect jamais vu, cet aspect de néant. Cette apparence croulante de fourmilières et de sciures, où des échardes, des fétus, des débris de choses mêlées comme de la paille dans du mauvais pain, rappelle qu'il y a eu des bois, des fusils, des brancards, on ne sait quoi de concassé, là. On ne vit plus, on ne dort plus, on ne mange plus. On range les morts sur le parapet, on ne ramasse plus les blessés. On attend le moment fatal dans une sorte de stupeur, dans un tressaillement de tremblement de terre, au milieu du vacarme dément. Lettre hommage à Émile Gillet, exposée au fort de Douaumont. Chapitre 1. Je n'étais pas parti la fleur au fusil. Je ne connais d'ailleurs personne qui l'ait vécu ainsi. L'image était certes jolie, mais elle ne reflétait pas la réalité. On n'imaginait pas que le conflit allait s'éterniser, évidemment. Personne ne pouvait le prévoir. On croyait passer l'été sous les drapeaux et revenir pour l'automne avec l'Alsace et la Lorraine en bandoulière, à temps pour les moissons, les vendanges ou de nouveaux tours de vis à l'usine. Pour tout dire, ça emmerdait pas mal de monde, cette histoire. On avait mieux à faire qu'à aller taper sur nos voisins. Pourtant, on savait que ça viendrait. On nous avait bien préparé à cette idée. À force de nous raconter qu'ils étaient nos ennemis, on avait fini par le croire. Alors, quand ils sont passés par le Luxembourg et la Belgique, il n'y avait pas grand monde pour leur trouver des circonstances atténuantes. On était nombreux à être volontaires pour leur expliquer que ça ne se faisait pas trop d'aller envahir des pays neutres. On a quitté nos femmes et nos enfants pour ceux qui en avaient. Je me souviens d'Anna, sur le quai de la gare, seule au milieu de ses amis. Et moi, seul à la fenêtre de mon pauvre wagon, entouré de plusieurs dizaines de têtes et de képis. Ça chantait, ça criait, mais c'était seul. Ce sont les au revoir. C'est comme ça. On a beau mettre une foule en décor, elle ne fait pas le poids face à la solitude. Si on avait su. De mes camarades de wagon, combien sont revenus en 18? Les morts officiels, les disparus, les estropiés. Il aurait eu une drôle de gueule à mocher le wagon du retour. Pour ma part, mon sort avait été rapidement scellé. J'avais perdu une main dès l'automne 1914. C'en était fini de ma participation au combat. Néanmoins, je voulais être utile à mes camarades. Avec toute la bêtise de ma jeunesse, je pensais que j'étais indispensable. On m'avait confié diverses missions, liées notamment à l'approvisionnement et au transport. Je ne participais plus au combat, mais j'en restais suffisamment près pour sentir l'odeur de la poudre. De 1915 à 1918, j'allais d'un coin à l'autre du pays. Chauffeur ici, cantinier là. Partout, on avait besoin d'un infirme besogneux, dévoué à n'importe quelle tâche pour être utile à mes camarades, à mon pays, à ma patrie. Voilà le genre de belles histoires que je me racontais. Une main en moins, impossible pour moi de retrouver ma vie d'avant. Après-guerre, un ancien camarade de combat m'avait présenté une certaine Blanche Maupas. Elle enquêtait sur l'affaire des caporaux de Souain et avait besoin de quelqu'un comme moi. Elle remuait ciel et terre pour prouver que son mari avait été fusillé à tort. Quasiment 20 ans, elle y a passé. Et s'il en avait fallu 30, elle aurait fait de la même manière. Un bel exemple. Elle a fait appel à la Ligue des droits de l'homme, a couru de cabinet ministériel en cabinet ministériel jusqu'à la Cour de cassation. Rendez-vous à